Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
La curiosité est un vilain défaut.
Le peuple français exigeait une nouvelle constitution avec des réformes encore plus radicales que celles du roi.
RTL.
Les privilégiés s'opposèrent encore et le 14 juillet 1789 sonna leur fin. Le gouverneur de Paris est tué. Le peuple prend la Bastille. Le roi Louis XVI et sa famille sont arrêtés.
Jusqu'à 22h.
C'est la Révolution française.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ils sont de retour 18 ans après leur dernier film, Le Comte Godefroy de Montmirail, alias Jean Reno, et son impayable écuyer, Jacouille la Fripouille, Christian Clavier. Évidemment, vous me faites un petit OK.
OK.
Ah, c'est pas mal, elle.
OK.
Ah ben voilà,
okay.
Le vrai. Reviennent au cinéma, cette fois-ci l'histoire se passe sous la Révolution, ce qui nous a donné envie, ici à la curiosité, d'éclairer à notre façon cette période tumultueuse, surprise garantie avec notre visiteur du soir, Pierre Baron, notre consultant en histoire. Ça va Pierre ?
Ça va.
Bonsoir, on est très heureux de vous retrouver. On va donc revisiter, humour, quelques idées reçues sur la Révolution française, mais d'abord on écoute un extrait de la bande-annonce. Ça va être super. Film signé Jean-Marie Poiré.
Tu t'appelles Jacques ? Couille.
C'est qui la couille ?
C'est le laquais de notre cousin autrichien et c'est une plaie.
Pourquoi c'est lui, Philibert ?
C'est votre famille qui débarque.
Un grand colosse et un petit violent qui pue.
Là, je suis point une couille ! Je suis Jacques Couille la Fripouille !
On n'en veut pas de cette couille !
Ok ! Il y a point d'eau qui court dans la baignoire.
D'eau qui court ?
Il est revenu pour nous faire chier. Il y a point d'ampoule électrique, nuit, jour, jour, nuit. Mais putain, il y a rien, c'est nul.
Et toi, Maro, c'est de la merdasse royale.
Alors, avant la journée spéciale demain sur l'antenne d'RTL, toute la journée à l'occasion de la sortie du film le 6 avril, nous, on prend un peu d'avance, on va chasser les idées reçues. Ça donne envie d'aller voir le film, hein, cette bande-annonce. Donc, l'un des personnages, forcément, c'est Louis XVI. Surnommé, d'ailleurs, j'ai regardé dans la distribution, Louis le Gros. Alors, est-ce que, comme on le croit souvent, Louis XVI était petit, gros et limité intellectuellement, Pierre Baron ?
Pas du tout.
Bon, ça commence.
On va commencer par la taille. Déjà, Louis XVI mesurait plus d'1m90, pour être précis, sans doute 1m92.
C'est énorme.
Vous en conviendrez, Thomas, n'est pas exactement ce qu'on peut appeler une petite taille.
Surtout à l'époque.
Oui, parce qu'à l'époque, la moyenne pour les hommes, c'était 1m65. On peut donc penser que Louis XVI, pour la plupart de ses contemporains, devait paraître géant, ni plus ni moins.
On a surtout du mal à se figurer cette haute stature de Louis XVI. Quand on visite le château de Versailles, les lits...
C'est vrai, et
y compris la chambre, on a l'impression que c'est tout petit. Est-ce que c'est un effet d'optique ?
Ah, c'est en fait une illusion. En fait, les gens à l'époque ne dormaient pas couchés, Sidonie. Ils dormaient en position semi-assise, avec pas mal de coussins derrière leur dos.
Mais pourquoi ?
Ils avaient très peur, sans doute, d'étouffer dans leur sommeil. Et la position couchée était considérée comme étant la position du gisant, c'est-à-dire la position du mort. Donc évidemment, ça réduit la taille du lit puisque vous n'êtes pas étendu de tout votre long.
Donc Louis XVI était un géant, 1m92. Comment s'est forgée la légende d'un petit roi, Louis XVI le petit ? C'est quoi ? C'est de la propagande en fait ?
Oui, déjà à l'époque révolutionnaire, on a des caricatures très féroces qui montrent ce roi petit. Mais... ça s'est pas vraiment arrêté là. C'est-à-dire qu'on retrouve cette légende bien après la Révolution. Après, par exemple, les nostalgiques de l'Empire ont entretenu cette idée fausse d'un Louis XVI petit pour une raison simple. Napoléon était petit.
Il était vraiment.
Il faisait moins d'1m70. Donc, c'était aussi une façon de montrer que... Vous voyez ce que je veux dire ? Pareil, pendant la Troisième République et jusqu'au début du XXe siècle, tous les historiens ont colporté cette erreur en insistant sur une chose totalement idiote, c'était le port des perruques, vous savez, c'était la mode, et puis les talons hauts. Sauf que comme tout le monde à la cour portait des perruques et des talons hauts, ça rehaussait pas plus Louis XVI que les autres.
Bien sûr, évidemment. Donc il était grand et pas petit. Ensuite, est-ce qu'il était vraiment gros ? Obèse même, on dit.
Bon, il pesait plus de 100 kilos. Mais c'est vrai que ramené à sa taille, ça faisait de lui un homme corpulent, mais sans doute pas forcément obèse. C'est un rapport de proportion. J'imagine que Sébastien Chabal ne fait pas 40 kilos. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà.
Heureusement pour lui. Oui. Alors Louis XVI, côté intellectuel, on le dépeint comme étant au mieux réservé, au pire benêt, et seulement concerné par la chasse ou par sa passion de la serrurerie. C'était le cas ?
C'est un petit peu...
C'est un peu
là
court.
Là aussi, c'est un peu beaucoup quand même. C'est quelqu'un qui parle couramment l'anglais, il lit parfaitement l'italien, l'espagnol, l'allemand, le latin.
Bon, déjà, on est battu, là.
C'est quelqu'un qui se passionne pour l'histoire et la géographie. Mmh. Mais là, vous allez le rattraper, Thomas. C'est quand même, il a une bibliothèque qui compte plus de 12 000 livres.
Ah.
Avec de mathématiques, de physique, de chimie, ça, de médecine ou de philosophie. C'est pas exactement ce qu'on peut appeler quelqu'un d'intellectuellement limité.
Trois idées reçues balayées. Concernant Louis XVI, ça n'empêchera pas la monarchie d'être balayée, elle aussi, décidément. Le peuple de Paris qui se rassemble du côté de la Bastille. Là aussi, il y a plein d'idées reçu, on va jouer au vrai, au faux, une prison qui regorge de détenus. D'abord, est-ce que c'était une prison bien gardée, la Bastille? Est-ce que ça a été, une sorte d'exploit de prendre la Bastille?
Non, pas du tout. En fait, elle était défendue par une centaine d'hommes. Il y avait 30 gardes suisses et alors, la majorité de l'effectif, c'était 80 invalides de guerre. Donc, vous voyez, ça, on est loin d'une place forte, on est loin d'une prison politique très sécurisée. La forteresse s'est rendue en toute fin de journée. Et pour donner un rapport de force, si j'ose dire, dans le bilan, il y a eu 100 morts parmi les assiégeants et 6 seulement parmi les assiégés. Et encore, faut dire ce qui est, s'il n'y avait pas eu des trahisons à l'intérieur du côté des Invalides qui ont aidé aux insurgés à prendre des canons, je ne pense pas que voilà, ce n'est pas vraiment un haut fait d'armes. Même si on a distribué des médailles après, du mérite pour ceux qui avaient pris la Bastille.
Pierre Baron, pourquoi les émeutiers s'en sont pris à la Bastille? Parce qu'il y avait des armes à prendre?
Alors les armes, en fait, ils les avaient déjà, parce que le matin même, ils avaient pris 32 000 fusils à l'hôtel de ville. Ce qu'ils cherchaient, Sidonie, en s'attaquant à la Bastille, c'était des munitions. C'était de la poudre pour leurs fusils, tout simplement.
Donc on a réécrit là aussi un petit peu l'histoire de la prise de la Bastille pour magnifier le fait révolutionnaire, c'est ça? Vous diriez ça, Pierre Baron?
Non, on l'a pas réécrit pour ça. On l'a réécrit parce que c'est un symbole.
Bien sûr.
Et c'est un symbole très fort. La Bastille, c'est un édifice qui a plus de 4 siècles et qu'elle est terriblement attachée au fait royal, y compris à l'abus et à l'arbitraire.
On en parlera dans un instant, oui.
Et donc, prendre la Bastille, même si c'était une prison avec très peu de monde, peu protégée, peu gardée, prenait une ampleur particulière parce que c'était un symbole.
On prenait le symbole, en fait.
Voilà. Voilà. C'était en politique, symbole, plus fort que tout. Hein.
Bien sûr. Mais alors, est-ce qu'il y avait des détenus politique, justement, à l'intérieur de cette prison de la Bastille, tombée le 14 juillet 1789. Peut-être que c'est une autre idée reçue, ça. Restez avec nous sur RTL pour avoir la réponse.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Au nom du comité qui salue le public, je vais te décapiter. Ouais. Au nom de liberté.
C'est bien.
Égalité,
là.
Va te faire niquer.
Non.
La curiosité est un vilain défaut.
Je suis Guillotin.
Et moi, je suis Biomane.
Jusqu'à 22h.
Je suis le roi de l'univers. Viens là, Marie-Antoinette et le dauphin Flipper.
Non.
Il est où?
Non, Mohamed.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Je dirais qu'il y a quelques anachronismes dans la révolution façon Les Inconnus, mais quel régal de les rendre. Merci à notre réalisateur André Facetta ce soir, à l'occasion de la sortie mercredi prochain du film Les Visiteurs 3, qui se déroule pendant la Révolution française. On chasse ces idées reçues sur 1789 et c'est Pierre Baron, notre consultant en histoire, qui nous éclaire. On racontait la prise de la Bastille qui est devenue vraiment un acte fondateur de notre République et pourtant elle était fort mal défendue. Est-ce qu'elle était au moins une prison importante par sa capacité? Est-ce qu'il y avait beaucoup de cellules?
Pensez donc. Il y avait en tout et pour tout, le 14 juillet 1789, le grand jour, et 45 personnes.
45 détenus.
Voilà, détenus. En fait, non. Et 45 personnes pour la garder, entendons-nous. Mais, en termes de prisonniers, vous en aviez 7. Alors, on va se dire, 7 prisonniers, mon Dieu, ça doit être des terreurs publiques, ça doit être des lanceurs de bombes, etc. Pas du tout. Vous en aviez, sur les 7, il y a 4 faussaires. Donc, franchement, vous avez 2 fous et vous avez un noble accusé d'inceste. Vous voyez, c'est vraiment hallucinant. Il y avait quand même un personnage politique, enfin, plutôt célèbre, qui avait été transféré peu de temps avant, c'est le marquis de Sade. Mais lui, il était peut-être dangereux par ses écrits, mais pas plus.
Quoi. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de prisonnier politique à la Bastille. Ce n'était pas ce symbole-là qu'on allait
chercher. Exactement, Thomas. C'est là où je voulais en venir. Il n'y avait aucun prisonnier d'idées. Autant, sous le règne de Louis XV, Voltaire a été emprisonné à la Bastille. Beaucoup plus tôt, pendant les guerres de Révolution, Montaigne a été emprisonné à la Bastille. Mais sous le règne de Louis XVI, on n'a pas, entre guillemets, pardon pour l'anachronisme, d'intellectuels puissants emprisonnés pendant cette période.
D'accord. Alors, je me souviens d'un dossier qui avait été publié par le Figaro Magazine. Je crois que c'était en partenariat avec Dassault 3D ou quelque chose comme ça, où ils avaient modélisé la prison de la Bastille dans la place actuelle. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'était la petitesse de ce bâtiment. Par exemple, comparé à l'Opéra Bastille, c'était tout petit, la prison de la Bastille. C'était quoi ? Comme un petit hôtel particulier, en quelque sorte ? C'est un peu plus grand que ça, peut-être ?
Oui, à peine. Je dirais une fois et demie, ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme un hôtel particulier parisien.
D'accord.
Ils ont de belles factures.
Ouais.
Mais par contre, c'est très étonnant. Moi, je l'ai visité, je l'ai vu en 3D. Ce qui est intéressant, c'est la différence entre la petitesse extérieure, Thomas, et le fait que les cellules ne sont pas si petites que ça. Parce que souvent, elles sont doubles. Et puis, il pouvait arriver que les nobles y soient détenus avec leurs domestiques. Je ne dis pas qu'on donnait beaucoup de place aux domestiques, mais ça agrandissait de facto la taille de la cellule. Ça, c'était pour les prisonniers privilégiés. Mmh. Par contre, encore une fois, on a des cellules qui sont pas très très heureuses, mais assez vastes par rapport à l'impression, vous avez raison, de petitesse du bâtiment.
Pierre Baron, la Bastille, c'est un monument qui fait partie de la capitale depuis longtemps, c'est ça ? Donc c'est à peu près 3 siècles avant la Révolution ?
Oui, c'est ça. La Bastille a été construite en 1367, à partir de 1367, les travaux ont duré 13 ans, par le roi Charles V. En fait, au départ, il avait ordonné l'exécution d'un fort. La Bastille, c'était un château et un arsenal. C'est plus tard, bien plus tard, ça a commencé avec Louis XI, et c'est en réalité Richelieu qui a transformé cela, ce château ou cet arsenal, en prison d'État.
Et vous disiez tout à l'heure qu'elle était un symbole, et c'était important de prendre la Bastille ce 14 juillet 1789, parce que c'était devenu le symbole du pouvoir absolu. Comment ?
C'est pour les Parisiens, quand on disait Bastille en 1789, on disait lettre de cachet. C'est immédiat.
C'est quoi une lettre de cachet ?
Une lettre de cachet, c'est tout simplement une lettre signée du roi. La plupart du temps, d'ailleurs, c'était pas le roi qui les signait, c'était ses ministres. Mais qui ordonnait l'emprisonnement immédiat de quelqu'un sans autre forme de procès. Il n'y avait aucun jugement. On prenait quelqu'un et on le mettait à la Bastille sans qu'il sache combien de temps il allait y croupir avant d'être jugé, si tant est qu'il soit jugé. Et ça, ce symbole fort, on l'a vu à l'instant tout à l'heure avec des gens comme Voltaire, avec des gens comme Montaigne. Peut-être un peu moins avec Sade, parce qu'il était beaucoup plus sulfureux. Pour le peuple, c'est immédiat. La Bastille, c'est l'arbitraire royal.
Alors, vous allez nous offrir une visite 3D de la Bastille, Pierre Baron, parce qu'il y a deux façons de séjourner à la Bastille. L'une qui est relativement agréable, l'autre nettement moins. Racontez-nous, faites-vous nous visiter. Allez, peut-être la partie confortable de la Bastille.
Allez, on va commencer par les Happy Few. les Happy Few, c'est les nobles, c'est les grands bourgeois. On leur sert de très bons repas. Ils peuvent même déjeuner une fois par jour avec le gouverneur, Launay, à la Bastille. Comme je l'ai dit, ils peuvent avoir la compagnie d'un domestique. Alors, ce qui est amusant, seulement si le domestique accepte la captivité. Enfin, en général, pour être payé, il accepte. Ils ont le droit d'avoir des meubles à eux, quelques meubles qui leur appartiennent. Mm-hmm. Ils ont le droit, ce qui quand même, si Denis fait froid là, dans l'hiver, ils ont le droit d'avoir une cheminée et du bois de chauffage.
Ah ouais.
Ils peuvent correspondre, ils peuvent recevoir des visites. Et ils peuvent même avoir une certaine relative liberté de mouvement au sein de la forteresse, d'accord ? Et même vous dire, il y a certaines cellules, elles n'étaient même pas fermées à clé.
Donc ça, c'est le régime...
Ça, c'est 5 étoiles.
Ça, c'est le régime 5 étoiles. Pour les prisonniers moins riches, c'était pas ça ?
Ah non, pas vraiment. Là, c'était vraiment plus dur. Cela a été enchaîné. La plupart d'entre eux vivaient de la charité, donc... Pour manger, ils n'avaient que ce qu'on appelle le pain du roi, c'est-à-dire la part que, minimum, que le roi donnait aux prisonniers. D'accord ? Mmh. Ils n'avaient que ça. On les appelait les pailleux parce qu'ils dormaient sur une paillasse. Pour vous dire, on changeait la paille une fois par mois. Donc, bonjour les rats. La prison disposait aussi de cachots. Il y avait 6 cachots en sous-sol avec une salle de torture à 6 mètres de profondeur au niveau des douves qui servaient là, je dirais, aux tortures diverses et variées quand il fallait faire parler, puis on appliquait la question quasi systématiquement. Enfin, moins sous Louis XVI, mais c'était fréquent. Et puis, on l'appliquait aussi aux prisonniers qui étaient un peu turbulents, on va dire, un peu rebelles, un peu insubordonnés. Ceux-là avaient le droit à la salle de torture.
Mais avant la prise de la Bastille, Louis XVI, il avait un petit peu adouci ses conditions de détention, ses mœurs, en quelque sorte.
Oui, il avait supprimé, effectivement, Sidonie, il avait supprimé, d'une part, la torture. Il avait également supprimé les lettres de cachet. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il avait adouci ses mœurs 3 semaines seulement avant le fatidique 14 juillet 1789.
Et c'était donc trop tard, la révolution, elle va éclater, se radicaliser, le sang va couler comme celui du député Marat assassiné dans sa baignoire par Charlotte Corday, une royaliste convaincue. Vous êtes sûr de ça ? Il va falloir attendre quelques minutes pour avoir la réponse.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les prendra. La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donne des fêtes et qui entretiennent des cadins. La 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases. On ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra.
Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Pour lancer la séquence consacrée aux idées reçues sur la révolution de 1789. Édith Piaf, évidemment, qui entonnait ce chant révolutionnaire. On vous aide à chasser ces idées reçues à l'occasion de la sortie du film Les Visiteurs 3. Et c'est notre consultant en histoire, Pierre Baron, qui nous sert de guide. On va raconter, Pierre, l'histoire de Charlotte Corday, épisode de la Révolution qui est devenu célèbre grâce à un tableau de David exposé au Louvre. Est-ce que vous pouvez nous décrire, tiens, déjà d'abord le tableau ?
Oui, bien sûr. On voit Marat avec un turban blanc. Il est incliné. Il tient dans sa main le début d'une lettre qui est datée du jour de sa mort. Il est un peu représenté dans une lumière que j'appellerais christique par David. C'est volontaire. Mmh. Une lumière de martyr, c'est très net. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une petite stèle, enfin, en pseudo-bois dans le tableau, qui imite la matière du bois, qui est signée Amara David. C'est-à-dire que ça rappelle un hommage funéraire, c'est donc un hommage pur et simple de David. C'est intéressant parce que figurez-vous que David l'avait vu la veille de sa mort, était venu le voir, et qu'il le connaissait donc personnellement. Après son assassinat, il y a eu une commande officielle de la Convention qui a demandé à ce qu'on le représente comme un héros de la Révolution. Évidemment, David a fait ce que faisait souvent David, c'est-à-dire de la peinture de propagande. Mmh. Mais c'est plutôt... Il l'a représenté, Thomas et Sidonie, comme il l'avait vu. C'est-à-dire que ce que vous voyez au Louvre, c'est exactement la scène de la veille.
Il a eu accès.
Et exactement.
Parce que Marat était effectivement dans son bain parce qu'il souffrait de maladie de peau.
C'est du reportage quasiment.
On ne sait pas exactement de quoi, mais Marat avait de gros problèmes, comme Churchill, mais enfin peu importe, avait d'énormes problèmes de peau. Et donc devait passer des heures dans l'eau. Et donc la veille, quand David l'a vu, il était dans sa baignoire. Et c'est cette scène-là qu'il a peint. Pas exactement son assassinat, mais ce qu'il avait vu. Et après, il a imaginé une fois mort.
D'accord. Charlotte Corday ne figure pas sur ce tableau. On va raconter son histoire. Est-ce que c'est vrai, tiens, déjà, qu'elle était la descendante d'une personnalité célèbre ?
Ah oui, très célèbre. C'est Pierre Corneille, le grand Pierre Corneille, qui est son ancêtre. Elle est l'arrière petite fille de Pierre Corneille. Mmh. Voilà. Charlotte Corday, c'est quelqu'un qui est né... dans un tout petit bourg, un hameau en Normandie, en 1768. Sa famille appartient à la petite noblesse, mais alors désargentée. À l'âge de 14 ans, elle est placée dans un couvent, enfin, l'abbaye aux Dames, très célèbre aujourd'hui, à Caen, parce que son père est devenu veuf et peut pas s'occuper des enfants. Et là, elle va y lire beaucoup. Elle va vraiment se passionner pour la lecture et les idées nouvelles. Elle va dévorer les livres de Montesquieu et de Rousseau.
Pierre Baron, comment Charlotte Corday va sortir du couvent pour littéralement entrer dans l'histoire ?
Ben, le paradoxe, Sidonie, c'est que sans la Révolution, elle y serait restée au couvent, ça, toute sa vie. Mais en fait, la constitution civile du clergé va supprimer les ordres religieux. Donc, elle va quitter l'abbaye en février 1791. Elle a 22 ans et elle va s'installer à Caen, chez sa tante.
Alors là, si on prend les deux personnages de l'histoire, donc Charlotte Corday, 22 ans, à Caen, chez sa tante, et le député Marat, il est en train de se faire un nom dans les rangs des révolutionnaires. Qu'est-ce qui commence à symboliser Marat ?
Marat, il commence à monter en puissance et il devient le symbole fort de la terreur. En fait, on est en pleine période de lutte terrible entre les Girondins, disons les modérés, et les Montagnards, c'est-à-dire les plus radicaux. D'accord ? Effectivement, Murat est arrêté. Il est arrêté en avril 1793, mais il est acquitté et il revient triomphalement à l'Assemblée. Il revient encore plus fort, si j'ose dire. Mmh. Ensuite, on a eu les émeutes du 31 mai et du 2 juin 1793 et la chute des Girondins. Certains d'entre eux sont placés en résidence surveillée, mais il y en a quelques-uns qui parviennent à se sauver, à s'évader, et tentent de soulever la province. C'est là qu'on va retrouver Charlotte Corday.
Alors, on la retrouve à quelle occasion ? Comment leurs deux chemins vont finir par se croiser à ces deux-là ?
Eh bien, on va faire plaisir aux producteurs, Gérald, parce que beaucoup de Girondins se sont réfugiés dans le Calvados. Et là, qu'est-ce qui se passe ? J'ai pas dit qu'ils buvaient, ils sont buvés dans le Calvados. Et là, ils tiennent des réunions publiques pour effectivement ameuter un peu la foule. Et Charlotte Corday assiste à ces réunions publiques. Pour les Girondins, bien plus même que Robespierre à ce moment-là, l'ennemi public numéro un, c'est Marat. Celui qui symbolise toutes les outrances de la Révolution, c'est lui. On l'a déjà surnommé à Paris l'ami du peuple. L'ami du peuple, c'est le nom du journal où il écrit. C'est aussi un journaliste, pas seulement un député Marat. Et donc c'est l'homme à abattre.
Donc
c'est...
il est désigné comme l'ennemi et Charlotte Corday décide d'aller l'abattre.
Mais toute seule en son camp, où elle est missionnée.
Non, pas du tout. C'est une idée à elle et elle a vraiment de son propre chef. Elle arrive à Paris le 9 juillet, elle descend à l'hôtel de la Providence. Ça ne s'invente pas. Elle apprend que Marat est souffrant et donc il n'est pas à la convention où elle va le chercher et elle ne le trouve pas. Évidemment, elle s'y est rendue pour rien. En fait, initialement, elle avait l'intention de le tuer en plein hémicycle, en plein cœur de la convention nationale pour que le symbole soit plus fort.
Donc là, Charlotte Corday doit complètement changer ses plans. Qu'est-ce qu'elle va décider de faire alors ? Il y a tout un stratagème qu'elle va mettre en place.
Ah bah oui, ça remet complètement à l'eau, si j'ose dire, son projet. Quatre jours plus tard, elle est arrivée à Paris le 9, le 13. Elle va acheter pour 40 sous un couteau avec un manche d'ébène sous les arcades du Palais Royal. Et là, on voit qu'elle n'est pas très 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 solide intellectuellement. Si vous voulez. Elle va rédiger deux lettres à Marat dans la même journée à qui elle demande un entretien.
Pourquoi c'est une erreur ? Parce que ça pouvait éveiller les soupçons ?
Bien sûr.
Elle a failli pas réussir en fait.
On est en pleine terreur, Thomas. Et Marat, c'est quand même un homme public et un homme en danger. Il a des ennemis. Donc, une provinciale dont il n'a jamais entendu parler et qui lui dit qu'elle a des choses urgentes à lui dire deux fois par billet porté chez lui dans la même journée, effectivement, ça peut devenir suspect.
Alors, elle a failli ne pas réussir, Charlotte Corday ?
Ça, c'est moins qu'on puisse dire.
Alors, ça se passe comment, la confrontation ?
Alors, d'abord, elle arrive une première fois au domicile du tribun, en fin de matinée. Simone Évrard, qui est la compagne de Marat, refuse de la laisser entrer. Elle essaye de nouveau d'entrer en contact. Deuxième échec. À la troisième tentative, il est 7h du soir, c'est Marat lui-même qui demande qu'on la fasse entrer. Après un entretien en tête-à-tête qui dure un quart d'heure, selon Simone Évrard, Charlotte Corday sort son couteau et frappe Marat à la poitrine. Et la mort est quasiment instantanée. Voilà. Elle va échapper de peu au lynchage et elle sera guillotinée 4 jours plus tard.
Mais c'était pas, on l'a compris, une royaliste.
Pas du tout.
Contrairement à ce qu'on pensait.
C'était une républicaine modérée.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Après votre retour de Varennes, le sang des citoyens était versé au Champ de Mars. Qu'avez-vous à dire ?
Je ne savais rien de cette malheureuse affaire du Champ de Mars.
C'est un... La curiosité est un vilain défaut.
C'est tout.
Jusqu'à 22h.
Marat, la mort. Robespierre.
Je suis inflexible. Pour les oppresseurs, parce que je suis compatissant pour les opprimés.
La mort.
Desmoulins, je vote la mort.
Danton, la mort.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Peut-être que vous l'avez vu ce film, c'est La Révolution. François Cluzet qui joue le député Desmoulins. Et c'est François Balmer qui joue Louis XVI, qui n'était donc pas petit et gros.
Et pas bête du tout.
Mais grand et charpenté, voilà. Alors c'est un autre film dont on va beaucoup parler demain. C'est pour Les Visiteurs 3, ou le retour évidemment de Godefroy de Montmirail et Jacou, l'Afrique pouille. Et vous les retrouvez en 1789. Et bien à cette occasion, on s'est dit avec les curieux qu'on pourrait parcourir cette histoire de la Révolution sous forme de vrai-faux avec notre consultant en histoire, Pierre Baron. Pierre, on va évoquer maintenant un personnage central des années qui suivent 1789, c'est Maximilien Robespierre. C'est quoi le grand organisateur de ce qu'on a appelé la terreur ?
Pas au début, mais c'est une montée en puissance progressive. On a entendu un extrait sonore tout à l'heure, c'est le procès de Louis XVI. Donc. On est donc fin janvier 1793. Deux mois après, on va avoir la naissance des tribunaux révolutionnaires. Donc ça y est, on rentre dans le processus proprement dit de la terreur et des exécutions qu'on pourrait appeler de masse. D'accord ? Robespierre n'est pas tout de suite dans le casting, si j'ose dire. Il va apparaître, Danton va présider un comité de salut public, on l'oublie trop souvent, mais de façon très modérée. Lorsque Robespierre va prendre le pouvoir, c'est une direction en théorie collégiale, d'accord ? Sauf que sur tous les membres, ils sont assez jeunes, hein, le comité de salut public, sauf que sur tous ces membres-là qui travaillent comme des fous, entre 15, 16 ou 17 heures par jour. C'est de la folie. Mais Robespierre, il arrive toujours à travailler plus que les autres. Et c'est probablement de toute la bande, Saint-Just, Collot d'Herbois, etc., c'est probablement celui qui a le sens politique le plus développé. Donc, comme il va travailler plus que les autres, et qu'il a ce sens politique, c'est vers lui, petit à petit, inexorablement, que les décisions vont se prendre. Et comme on est dans un pays qui est dans un chaos total, puisque je vous rappelle qu'on a toute l'Europe coalisée contre nous, et qu'on a à l'intérieur la guerre civile, que ce soit en Vendée ou en Bretagne avec les Chouans. Les décisions, il faut les prendre, il faut les prendre vite. Et petit à petit, ça remonte de plus en plus seulement vers Robespierre. Mais ce n'est pas immédiat. Voilà.
D'accord. Ces tribunaux révolutionnaires qui ont été créés, l'une des images qu'on en a, ou idées reçues, c'est que les accusés n'avaient aucune chance. Est-ce qu'ils pouvaient se défendre ?
Oui, ils avaient un avocat. Enfin, dans le cas de Danton, c'est un peu particulier, il s'est défendu lui-même, et brillamment, mais 9 fois sur 10, bien sûr qu'il pouvait avoir. Il y avait un accusateur public, l'équivalent d'un procureur, et vous aviez une défense. Mais assez bizarrement, on imagine que de toute façon, il passait systématiquement à la guillotine. Non, c'est pas vrai. Si on prend par exemple les trois premiers mois de l'année 1793, eh bien on a acquitté autant qu'on a guillotiné. Donc c'est pas systématique.
Alors,
loin s'en faut.
Combien de personnes ont-elles été guillotinées ? Jean Reno, que l'on retrouve donc dans le rôle de Godefroy de Montmirail mercredi, il en parlait avec Vincent Perrault dimanche soir dans l'émission Échange public. On écoute Jean Reno.
Robespierre avait le droit de vie ou de mort. Le comité de salut public n'avait pas un mot à dire. C'était lui qui disait.
Et hop, la guillotine.
Coupez-lui la tête. Voilà. Comme ça. Il y avait, je crois, 60 personnes par jour. On appelait la charrette. Mettez-le dans la charrette. Il y a eu, je crois, les chiffres, évidemment, il faut voir les historiens, mais je crois, autour de 7000 personnes guillotinées comme ça, jour après jour. Et souvent pour des raisons futiles, hein. Ouais. Parce qu'on était jaloux, parce qu'on voulait prendre son château.
Votre tête leur revenait pas.
Parce que vraiment, c'était un salaud aussi. Hein.
Bah, ça tombe bien, notre consultant en histoire, Pierre Baron, est là pour éclairer la lanterne de Jean Reno. Alors, combien de personnes ont été guillotinées sous la terreur ?
D'abord, il y en a eu 500 000 qui ont été emprisonnés. Sur ces 500 000, il y en a 100 000 qui ont été exécutés ou massacrés, comme en Vendée ou en Bretagne avec les Chouans. On va dire environ 17 000 Sidonies ont été guillotinés et il y a eu 20 à 30 000 fusillés.
D'accord ? Donc il était en dessous de la réalité.
Ah oui,
quand il dit 7 000.
Non, donc il y a 17 000 personnes qui sont guillotinées. Et je dirais que le pire du carnage, il vient pas de là, il vient des massacres de civils. Hein. C'est les femmes, c'est les hommes, c'est les enfants. C'est ce qu'on a appelé les grands massacres vendéens. Ça, c'est des carnages et en un jour, vous avez plusieurs dizaines de milliers de morts possibles, comme à Nantes, par exemple.
Et la guillotine, qui étaient les principales victimes, les nobles, les aristocrates ?
En réalité, pas du tout. Sur les statistiques, si on prend les statistiques, on a 85% des condamnés exécutés qui faisaient partie du tiers-état, donc de la bourgeoisie, on va dire ça pour faire simple. 8,5 la noblesse et 6,5 du clergé. Quand on regarde ça, c'est clair, 85, la révolution a dévoré ses propres fils, 85%. En réalité, il faut quand même être un peu plus prudent avec les statistiques, toujours. Parce que comme il y avait beaucoup moins de nobles et de prêtres dans la population, quand vous dites 8,5 et 6,5, en réalité, les nobles et les prêtres, proportionnellement, ils ont été beaucoup plus exécutés que les autres.
Alors on va terminer, Pierre Baron, sur une note plus heureuse. On va parler de la Carmagnole, la danse la plus populaire de la Révolution. On en écoute tout de suite le premier refrain.
Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Monsieur Veto avait promis, Monsieur Veto avait promis d'être fidèle à son pays, d'être fidèle à son pays. Mais il y a manqué, ne faisons plus de quartier. Dansons la Carmagnole, vive le son, Dansons la Carmagnole, vive le son du canon.
C'est qui Pierre Baron, monsieur et madame Veto?
Louis XVI et Marie-Antoinette.
Mais pourquoi on les surnommait comme ça?
Parce qu'ils étaient déjà fort impopulaires et que le peuple considérait qu'ils mettaient leur veto à toutes les décisions proposées par l'Assemblée nationale. Ça avait commencé avec le boulanger, la boulangère et les petits mitrons, ce qui était encore un peu affectueux, même si le peuple manquait de pain. Et là, évidemment, ça s'est un peu durci. C'est monsieur, madame Veto, ça veut dire monsieur non à tout. Quoi.
Pierre Baron, la Carmagnole, on pense que c'est la danse la plus populaire de la Révolution. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Pourquoi?
Ah, c'est une danse très très populaire.
C'est un hit quand même. Hein.
Ah oui, ouais. C'est peut-être même la danse la plus populaire, mais ce n'est pas que cela, voilà, pas que. Voilà. Parce qu'au départ, ce n'était pas une danse. La Carmagnole, c'est un vêtement. C'est un vêtement, c'est une veste courte, avec des revers assez larges, et puis des rangées de boutons en métal. Elle était portée par des Italiens, des habitants d'un village du Piémont, qui s'appelle la Carmagnola. Elle est arrivée à Paris en même temps que notre hymne national, d'ailleurs la Marseillaise, par les soldats marseillais. Il avait adopté comme danse. Et très vite, on est passé de ce vêtement, ce signe vestimentaire des sans-culottes, hop, on est passé à la chanson et à la danse.
Comment ça?
Oh, mais c'est pas très compliqué. À la chute de la monarchie, il y a une chanson anonyme, qui s'appelle La Carmagnole, qui est arrivée, et qui est devenu très populaire. Les sans-culottes, qui avaient déjà adopté le vêtement, ont également adopté cette chanson. Et en fait, c'était une ronde. Donc c'était au départ une chanson assez gaie, assez enjouée. On ne s'en rend pas forcément compte quand on l'écoute aujourd'hui. C'est une chanson où on tapait du pied, on accélérait au moment du refrain. Et de façon très amusante, à chaque fois qu'il se passait un événement politique dans le pays, on rajoutait une strophe. Donc la Carmagnole, j'aime autant vous dire, ça pourrait durer longtemps. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait le peuple, automatiquement rajoutait une strophe.
Et elle a accompagné comme ça plein d'épisodes de notre histoire. Merci beaucoup Pierre Baron, c'était génial de vous avoir encore une fois dans le studio de la Curiosité. Voilà, maintenant vous pouvez aller voir Les Visiteurs 3 au cinéma mercredi avec en tête toutes les vérités sur 1789. Vous pouvez aussi écouter RTL demain puisque c'est une journée spéciale Les Visiteurs, juste avant la sortie du film.
Vous écoutez RTL.